Femme novatrice.
Femme novatrice.
Femme novatrice avec Sophie Nanin.
Bonjour et bienvenue à Femmes Novatrices pour écouter et partager avec vous les échos de leur challenge. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir une femme motivée, Amandine Pillot, présidente d'AtouCap et qui est en charge de missions handicap externalisées auprès des entreprises. Bonjour Amandine.
Bonjour Sophie.
Ravie de vous accueillir parce que franchement, j'avoue que là, de ce que vous faites par rapport à votre entreprise, donc depuis, si je ne me trompe, 6 ans.
Oui, tout à fait.
C'est ça. Donc là, vous levez les préjugés. Vous êtes à fond, effectivement, dans une activité donc, de mission handicap externalisée. Et vous-même, dans ce beau défi et réussi, c'est que vous êtes malvoyante vous-même, en situation donc de handicap, comme vous dites, invisible. Mais vous allez nous expliquer, effectivement, tout ça. Et surtout, c'est que vous définissez auprès de tous nos auditeurs qu'on peut être différent et compétent. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans vos actions très humaines. Donc là, je vous laisse effectivement vous présenter et pourquoi AtouCap. Donc à vous la parole.
Merci Sophie. Effectivement, je suis moi-même en situation de handicap hein, puisque je suis malvoyante. Mmh. À l'origine, je suis déjà master en droit, j'ai un master en communication. J'ai travaillé ensuite pendant une dizaine d'années en tant que salariée déjà dans le secteur du handicap. Puis finalement, effectivement, j'ai choisi de créer ma société il y a 6 ans maintenant, qui s'appelle AtouCap, et dont l'objectif, effectivement, est d'accompagner les entreprises, les PME, les ETI, les grands groupes également, hein, dans la mise en œuvre de leur politique handicap, afin de dédramatiser le handicap, de casser les préjugés, pour avancer ensemble vers plus d'inclusion. Donc effectivement, bah on peut faire ça hein, de différentes façons. J'interviens en tout cas de différentes façons. Je suis pour certains de mes clients référente handicap externalisée. J'interviens aussi parfois en one shot avec du conseil, de la formation. Beaucoup de sensibilisation
Oui, vous en faites beaucoup et ça faudrait vous l'expliquer énormément si vous êtes très active sur le sujet.
Oui, c'est vrai. Disons que l'un des objectifs de mes actions, mais des politiques handicap en général dans les entreprises, hein, alors c'est bien sûr de respecter la loi, puisqu'il y a actuellement une obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Mmh. Donc toutes les entreprises de plus de 20 salariés ont l'obligation d'avoir 6% de travailleurs handicapés dans leur effectif. Et sinon, elles doivent payer une contribution annuelle à la l'AGFIP. Donc effectivement, bien sûr, elles ont cet objectif de remplir leur obligation. Mmh. Mais aussi, l'idée, c'est de casser un peu les préjugés pour que l'ensemble des salariés, finalement, se rendent compte déjà de ce qu'est le handicap. Parce que souvent, on en a une image un peu tronquée, une image avec parfois des préjugés. On va rediscuter. Et puis, du coup, soit aussi davantage capable d'accueillir un collègue en situation de handicap ou de manager un collaborateur en situation de handicap, parce que aujourd'hui un handicap n'empêche pas d'être compétent, d'être capable. Bien au contraire, c'est souvent un enrichissement d'intégrer un collaborateur handicapé dans une équipe.
Et donc, par rapport, justement, quand vous parliez d'handicap invisible, pour que l'auditeur comprenne bien, que, effectivement, alors, c'est vraiment l'histoire, justement, de casser, on va dire, les a priori, on va dire ça comme ça, c'est que c'est plutôt 20% moteur et 80% plutôt invisible, quoi. Parce qu'en fait, les gens, à chaque fois, c'est, il peut y avoir une gêne ou, comment accueillir, comment discuter, mais en même temps, le handicap est beaucoup plus invisible que tous les gens peuvent connaître et entendre via les médias ou tout simplement justement ces fameux a priori, n'est-ce pas ?
Tout à fait, oui. On considère qu'il y a 80% de handicap invisible. Donc effectivement, c'est énorme. Très souvent, quand on entend le mot handicap, eh bien, on pense au fauteuil roulant. Alors c'est normal, hein, c'est l'esprit humain qui fait ça, c'est logique. Mmh. C'est-à-dire que dans les médias, quand on parle de handicap, hop, on nous met le petit logo handicap. les places réservées, enfin on nous met le petit logo avec le fauteuil, pardon. sur les places réservées, bah, pareil, il y a le logo avec le fauteuil roulant. Et donc c'est vrai que notre cerveau fait une association d'idées. Handicap égale fauteuil roulant. D'autant plus qu'évidemment, quand dans la rue, on croise une personne en fauteuil roulant, eh bien, c'est le handicap le plus visible. Donc, c'est vrai qu'on fait souvent cette association d'idées-là, alors que les personnes en fauteuil roulant, les personnes qui utilisent un fauteuil roulant quotidiennement, ne représentent que 3% des personnes en situation de handicap. Alors, il ne faut pas les oublier, il ne faut pas les négliger, hein, parce que nos villes ne sont vraiment pas encore accessibles. Il y a encore pas mal de boulot à faire hein, pour renforcer l'accessibilité qui est fondamentale et qui ne leur sert pas qu'à eux, d'ailleurs. Mais voilà, donc ce n'est pas pour les oublier, mais c'est pour relativiser et surtout comprendre cette diversité en fait, des handicaps. Donc qu'est-ce que sont ces handicaps visibles, invisibles? Alors il y a les handicaps moteurs, donc ceux-là sont souvent visibles, pas toujours mais souvent. Il y a aussi les handicaps sensoriels qui sont pareil, ça dépend, parfois visible, parfois non, mais par exemple une personne aveugle qui se déplace avec une canne, c'est un handicap visible hein, et c'est un handicap sensoriel. Voilà. Mais après effectivement, il y a beaucoup d'autres typologies de handicaps qui sont aujourd'hui reconnus et qui sont invisibles, comme les handicaps cognitifs. Alors les handicaps cognitifs, ça regroupe l'autisme, mais ça regroupe aussi l'ensemble des troubles 10 comme la dyslexie, la dysorthographie, la dyspraxie, etc. On a aussi les handicaps psychiques. Donc ça regroupe ben, l'ensemble des maladies psychiques, c'est-à-dire quelqu'un qui est bipolaire, qui est schizophrène, qui a des troubles, qui est dépressif de façon chronique. Toutes ces situations-là peuvent être reconnues comme des handicaps et sont, ben, pour la plupart du temps, invisibles. Idem pour les maladies chroniques. La plupart des maladies chroniques. Donc les maladies chroniques, c'est souvent des maladies qui permettent d'être en ALD, c'est-à-dire en affection de longue durée à la sécurité sociale. Dans ce cas-là, très souvent, la maladie est reconnue comme handicap. Eh bien, effectivement, les maladies chroniques, très très souvent, elles sont invisibles. Ça va, alors certes, de la sclérose en plaques, qui quand on a des crises peut être visible, mais ça concerne aussi les personnes qui ont de l'asthme sévère, qui sont diabétiques, les femmes qui ont de l'endométriose. Voilà, toutes ces situations-là, bah, vous voyez, quand j'en parle, c'est des situations complètement invisibles. Et pourtant, ce sont des handicaps qui sont aujourd'hui reconnus. Et pourquoi ce sont des handicaps? Eh bien, parce que effectivement, ce sont des gens qui ont des pathologies lourdes, qui rencontrent des obstacles au quotidien, ou qui ont des traitements très réguliers, un suivi plus important, etc.
Bah écoutez, merci infiniment pour tous les auditeurs pour ces précisions, parce que là, je crois qu'en fait, vous venez de leur clarifier vraiment cette vision, et je vous en remercie.
Femme novatrice, Sophie Nanin.
Amandine, vraiment, merci pour ces précisions. Donc, par rapport à toutes ces maladies, on va dire ça, handicaps invisibles, vous, puisque vous êtes chargée de mission externalisée, quel profil de poste, du coup, vous avez pu permettre à toutes ces personnes d'avoir, parce que c'est vrai que les compétences, comme on l'a dit tout à l'heure, n'avaient rien à voir avec la différence, mais quel poste vous avez pu permettre dans une équipe à ces personnes de pouvoir effectivement intégrer et quelles compétences justement mettre à profit?
Alors disons que moi je travaille d'une façon un peu particulière, c'est-à-dire que je vais travailler effectivement avec les équipes RH et les équipes managériales pour faire évoluer la façon de recruter et pour pouvoir recruter de façon plus inclusive. Et donc, en fait, c'est difficile de dire tel poste est adapté et tel autre poste ne l'est pas. Aujourd'hui, effectivement, la bonne méthode, selon moi en tout cas, c'est de se dire qu'effectivement, l'ensemble des postes de l'entreprise sont ouverts à tous, y compris aux personnes en situation de handicap. Mmh. Comme on l'a vu juste avant, eh bien, les handicaps sont multiples et variés. Et donc, effectivement, eh bien, quasiment toutes les compétences aujourd'hui peuvent être, et donc tous les métiers peuvent être occupés par une personne finalement en situation de handicap, que ce soit un handicap visible ou invisible. Donc effectivement, pour moi, il faut réussir à sensibiliser les managers, les RH, à les former, à sensibiliser les équipes pour que, eh bien, finalement, on soit prêt à accueillir un futur collègue, un futur collaborateur en situation de handicap.
Mais dans quelles compétences, justement, marquées aussi bien, on est d'accord, marketing, juridique, enfin, il n'y a pas puisque beaucoup font l'autocensure, il faut le reconnaître. Là, vous, c'est de toute compétence et de tout niveau, dans une verticalité, dans une entreprise, c'est sa compétence qui va être observée, que vous pouvez permettre à toutes ces personnes, on est bien d'accord.
Oui, tout à fait. Aujourd'hui, vraiment, on peut accueillir des personnes en situation de handicap, que ce soit dans les fonctions support, dans des fonctions techniques et effectivement dans toute la verticalité de l'entreprise. Il peut y avoir effectivement, on peut retrouver des personnes en situation de handicap à la direction également. Donc oui, aujourd'hui, il n'y a pas de poste, il n'y a plus de poste interdit, je dirais, aux personnes en situation de handicap. Les handicaps sont tellement variés, les niveaux de formation ont tendance à augmenter aussi. Ils se forment davantage parce que les formations sont plus accessibles, parce que l'autocensure diminue un petit peu également. Donc effectivement, on peut vraiment les retrouver sur tous les types de postes. Et on a souvent de très très belles surprises parce que c'est souvent des gens qui sont surmotivés. Il y a des études également qui montrent maintenant que ce sont des gens plus créatifs que la moyenne. Donc ils apportent ça aussi dans l'entreprise parce que leur maladie, leur handicap fait qu'ils sont obligés continuellement de créer, finalement de créer des stratégies de compensation. Donc ça forme en fait leur esprit créatif. Voilà, donc c'est vrai qu'on se rend compte aujourd'hui que dans beaucoup d'équipes, il y a des études qui prouvent que dans les équipes intégrées, une personne en situation de handicap, eh bien, c'est plutôt un atout. Ça apporte, ils apportent aussi leur regard sur le monde. Enfin, voilà, c'est vraiment plutôt un atout, plutôt des choses en plus. Et ils ont les mêmes compétences que les autres. Ils ne travaillent pas moins bien, pas plus lentement. Voilà. D'ailleurs, aujourd'hui, on recrute une personne en situation de handicap, évidemment, sur ses compétences. Alors, on n'est pas dans le déni, on va trouver des solutions pour adapter le poste si c'est nécessaire. Mais effectivement, c'est avant tout sur ses compétences, comme n'importe quel autre candidat.
Ah oui, non, mais là, je vois que justement, de toute façon, vous êtes quand même sur Toulouse. Ça va vous faire bizarre comme phrase, mais la référence quand même sur la ville rose, si, il faut le reconnaître. Par rapport à ça, vous faites partie du MEDEF, où là, vous avez des actions qui sont effectivement présentes. Là, il y a eu Autonomique, donc au MIT, au Nouveau Parc, où vous êtes effectivement allé pour voir comment ça se passe. Et il y avait d'ailleurs toute une robotique, on parlait justement de l'handicap moteur, qui était quand même assez sidérante quand on parle justement de l'IA et tout, mais tout est impliqué terriblement par rapport aux solutions qui sont apportées. Vous allez bientôt à Paris à une Clisuf Days où là vous allez être présente avec votre stand et parallèlement à tout ça pour lutter donc toujours, on va dire, les préjugés, mais aussi pour libérer et donner le droit de parole. Vous faites beaucoup de sensibilisation, notamment les immersions dans le noir que vous faites. Et je crois d'ailleurs que là, dans l'actualité, Auristel Marx, que vous affectionnez particulièrement, avec qui vous êtes en partenariat, il y a effectivement des actions aussi que vous menez. Donc vous voyez quand même tout ce panel, vous êtes plutôt une femme active.
Oui, bah effectivement, si on veut faire bouger les choses, c'est un de mes objectifs aussi, de faire un petit peu évoluer le regard sur le handicap, de faire évoluer les choses. Bah, il faut effectivement être présent et essayer de faire bouger les choses concrètement, activement. Donc effectivement, vous dites plein de choses tout à fait justes et tout à fait importantes. Vous citiez Autonomique, c'est un salon qui a lieu tous les 2 ans à Toulouse, et puis tous les 2 ans d'ailleurs dans la plupart des des grandes villes de France, mais c'est important parce que ça permet, en fait, ils présentent tous les matériels qui permettent de compenser les handicaps. Et c'est vrai que il y a des innovations à chaque fois assez étonnantes, assez impressionnantes. Il y a plein de choses souvent qu'on n'imagine pas hein, quand on connaît pas ce secteur-là. Donc c'est vrai que c'est hyper important. Vous avez aussi parlé de libération de la parole. Ça aussi c'est très très important. C'est-à-dire qu'effectivement on se rend compte aussi aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, en fait, ont des collaborateurs en situation de handicap, déjà, dans leurs effectifs, mais qui, tout simplement, ne se sont pas déclarés. Parce qu'ils ont peur d'être discriminés, ou parce qu'ils ne savent pas qu'ils peuvent être reconnus comme personnes en situation de handicap. Il y a plusieurs raisons, mais il y en a souvent beaucoup. Donc, pour ça, pour faire évoluer ça, il est nécessaire, justement, de mettre en place des actions dont le but est de libérer la parole. Les immersions dans le noir que vous évoquez,
je trouve ça fantastique, oui.
Ça fait partie effectivement des sensibilisations que je propose. Il y a plein de possibilités, hein, en tout cas, pour sensibiliser, mais il faut choisir des choses qui soient vraiment impactantes, hein, pour que ça ait du poids et pour que les gens s'en rappellent. Et effectivement, les choses concrètes comme les mises en situation fonctionnent très bien. Et je propose souvent ces immersions dans le noir, alors qu'on essaye, que j'ai essayé de créer sous un format assez court pour correspondre aux attentes aussi des entreprises. Mais donc, ça se fait effectivement en 30-45 minutes. Mmh. Et donc, ça se fait n'importe où. Moi, je viens en fait avec des bandeaux occultants. On fait ça en binôme. Mmh. Et l'idée, c'est qu'effectivement, pendant quelques minutes, la personne soit en situation de cécité. Et puis, on lui demande de remplir un petit défi. Donc, d'aller simuler l'achat d'une chocolatine à la boulangerie les yeux bandés avec un petit parcours, enfin voilà, et puis après on débrief. Et ben je peux vous dire que ça effectivement c'est très impactant parce qu'en fait les gens réalisent l'espace de quelques minutes ce que peut être la vie d'une personne aveugle ou malvoyante. Et donc après on débrief, la parole se libère pour le coup, hein. Il y a souvent des choses très intéressantes qui ressortent de ces simulations là. On parle de confiance en soi, de confiance en l'autre. Donc d'ailleurs ça peut aussi après on peut le relier hein, à des choses qui se passent dans l'entreprise aussi. ça fait partie des actions qui sont impactantes parce qu'effectivement c'est court mais on s'en rappelle et ça permet de parler de la vie quotidienne des personnes en situation de handicap, en situation de malvoyance, à la fois de se rendre compte des difficultés et en même temps de voir qu'il y a des solutions. Parce qu'évidemment, je ne viens pas qu'avec des problèmes. Je montre les solutions.
Au contraire, c'est plutôt de dire, très bien, vous avez votre méthode de pensée. Moi, je vais vous apporter la mienne. Vous allez voir, vous allez changer d'avis.
C'est ça.
Mais alors, en fait, de ce que je vois, c'est que vous êtes quand même une facilitatrice, on va dire, pour comprendre cet univers et cette interaction. Et je crois qu'il y a des actions aussi que vous menez sur la semaine du handicap, qui est un temps fort pour vous, pour les campagnes de sensibilisation, justement, et les actions en réel. Est-ce que la semaine de l'handicap, vous pouvez un peu en parler? Parce que les personnes ne savent pas toujours non plus à quel moment se déroulent ces grands événements et ces événements phares. Comme ça, au moins, les auditeurs peuvent le marquer et être au rendez-vous.
Oui, alors, moi, j'aime bien dire que le handicap, il ne faut pas en parler qu'une fois dans l'année. Hein.
Non,
il faut
on est bien d'accord.
Tout
non,
au long
c'est
de
des temps forts, tout le temps, 365 jours, soyez à l'écoute. Oui, j'entends bien.
Et d'ailleurs, tout au long de l'année, en plus, il y a des journées spéciales.
Oui,
mais
oui,
c'est vrai qu'une fois par an, au mois de novembre, c'est la troisième semaine du mois de novembre, de chaque mois de novembre, il y a le terme exact, c'est la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées.
Européenne, donc.
Voilà, d'accord. Depuis quelques années. Oui, c'est européen. Et donc, effectivement, c'est un événement hein, dont on parle au niveau national et aussi européen. Et donc, on en parle beaucoup dans les médias. Et donc, effectivement, c'est la période hein, où tout le monde se mobilise quand même davantage sur le sujet dans le monde économique, dans les entreprises. Et donc, effectivement, c'est une semaine où je suis très présente et où j'interviens dans beaucoup, beaucoup d'entreprises et surtout pour de la sensibilisation, effectivement, à ce moment-là,
d'accord.
pour essayer de faire bouger les choses. Mm-hmm. Et donc, par exemple, vous citiez Auristel Marx aussi, hein, qui est une autre consultante handicap toulousaine. personne avec laquelle j'ai monté certains projets, avec laquelle j'ai plaisir à travailler. Et donc, on peut parfois intervenir ensemble à ce moment-là. Alors, parfois, on intervient à d'autres moments aussi. Mais voilà. Mais c'est vrai que c'est une semaine importante dans l'année. Donc là, je crois que les dates officielles ne sont pas encore connues, me semble-t-il, pour 2024.
Oui, mais sur novembre, quoi.
Voilà, c'est la troisième semaine de novembre. Donc, voilà. Et donc, c'est effectivement la période où, dans le monde économique et dans l'entreprise, on parle beaucoup de ça. Et l'intérêt d'organiser une sensibilisation, alors, pendant cette période, ou un peu avant, un peu après, hein, c'est que, on bénéficie aussi de l'écho médiatique. C'est-à-dire que le salarié, il va avoir une sensibilisation dans son entreprise la journée. Et puis le soir, en rentrant dans sa voiture, il va mettre la radio. Il va encore en entendre parler. Donc, ça va. On bénéficie de cet écho médiatique. Et ça permet du coup de faire bouger les choses. Mmh. Et puis moi, il y a des entreprises dans lesquelles j'interviens tous les ans. J'ai plaisir à les retrouver chaque année.
Des belles actions. Moi, ce qui m'avait étonné dans les dernières rencontres que j'ai pu réaliser dans le monde du handicap, c'était quelqu'un qui était dans la surdité et qui faisait un spectacle, qui était dans l'autodérision par rapport à son propre handicap. Alors ça, je trouve ça extraordinaire. Et j'ai l'impression par rapport à cela qu'il y avait un moyen de faire comprendre que, attendez, tout est possible, mais sur le fait de le mettre sous un schéma d'un peu café-théâtre, il arrivait énormément à fédérer des personnes. Donc ça, je trouve c'est assez bluffant. Et là, ce que je voulais savoir, c'est quand vous me disiez tout à l'heure qu'il y avait des sensibilisations, qu'il y avait des animations que vous faisiez dans les entreprises, est-ce qu'il y a des secteurs d'activité qui sont plus à l'écoute que d'autres ? Par rapport à tout cela, justement, la sensibilisation, les animations, ou parfois vous avez des prestataires qui font des escape games. Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité qui sont plus à l'écoute que d'autres ? Peut-être qu'il y en a où c'est plus au ralenti, je ne sais pas.
Alors, des secteurs d'activité, je n'ai pas l'impression.
C'est assez uniforme.
Oui, alors ça mériterait peut-être une étude un petit peu plus approfondie. Comme ça, là, j'ai pas de tendance selon les secteurs. J'ai l'impression, par contre, que, enfin, plus qu'une impression, c'est souvent quand même, il faut qu'il y ait un moteur dans l'entreprise. C'est-à-dire que souvent, c'est ou un dirigeant, ou un RH, ou quelqu'un du board, des fonctions support.
Pour que le boss soit un leader pour lancer le sujet.
Voilà, qui soit leader sur le sujet. Et très souvent, c'est lié au fait que, peut-être que l'un des membres du board peut-être a un enfant en situation de handicap. Et ben là, vous pouvez être sûr presque que c'est cette personne-là qui va impulser l'idée. Donc voilà, il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui soit moteur. Sinon, c'est très difficile de démarrer quelque chose. Et d'ailleurs, il faut que ça vienne d'en haut au départ et que la direction soit engagée. Donc ça aussi, c'est important dans toutes les démarches qu'on met en place. Parfois aussi, il peut y avoir, par exemple, une RH qui va être intéressée, motivée, etc. Mais si la direction derrière si on n'arrive pas à l'embarquer, c'est compliqué.
Justement servir d'appui auprès de la RH, par exemple, pour construire un dossier, pour que ça ait effectivement de crédibilité. Vous l'avez forcément, vous l'avez aujourd'hui convaincu, mais auprès du leader, de voir véritablement ce que ça va apporter à son entreprise et qu'il en voit l'importance, on va dire, entre performance et humain, quoi.
Oui, on peut tout à fait travailler sur un argumentaire en ce sens-là, puisqu'effectivement, ça apporte des choses que parfois on ne voit pas quand on est la tête dans le guidon et que voilà, et puis on dit oh là là, je vais pas en plus m'embêter à faire ça. Et en fait, quand on se rend compte de ce que ça peut aussi apporter, c'est-à-dire que on respecte certes une obligation, mais ça va permettre une réduction des coûts parce que du coup, on va faire baisser cette fameuse contribution à GFIP. On peut intégrer la politique qu'on met en place, cette politique handicap. Ça fait complètement partie de sa RSE. Donc, ce sera un pilier supplémentaire, le pilier finalement sociétal que l'on va pouvoir ajouter à sa RSE. Ça permet d'enrichir ses équipes. Comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'études Et de l'autre jour, c'était un article de recherche de chercheurs d'université qui démontre effectivement qu'aujourd'hui, les entreprises inclusives sont plus performantes économiquement que les autres. Donc tout ça, c'est des arguments. Alors il faut trouver le temps, il faut trouver la manière de présenter, voilà. Mais c'est des arguments quand même qui peuvent parler souvent à des directions.
Non, mais là c'est impeccable par rapport à ça, de ce que vous présentez. Quand je disais tout à l'heure que vous étiez quand même sur facilitatrice ou sensibilisée, d'ouverture d'esprit, d'adaptabilité, vous êtes vraiment dessus. En tout cas, je suis ravie de vous avoir accueilli aujourd'hui, parce que je pense que là, par rapport à donc votre présentation, et j'insiste bien, Amandine Pillot à tout cap, en plus site web, et en même temps vous pouvez la trouver sur les réseaux sociaux au niveau des actions qui sont menées, mais où que vous soyez sur les départements, rapprochez-vous, parce que vous pouvez très bien avoir en ruralité ou dans le monde urbain, dans les premières couronnes, avoir un besoin par rapport à cela. Vous l'avez compris, personne plutôt mobile, et se rapprocher de tous les événements. Donc en tout cas, merci infiniment Amandine, bravo pour vraiment cet engagement, et puis surtout de bien lever les préjugés. Ça, j'avoue que c'est une belle réussite pour nous tous. Merci infiniment en tout cas de votre venue, et merci. À la semaine prochaine.